auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent en cette deuxième partie d'émission qui est toujours en direct. Et je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au téléphone et prêt à prendre tous vos messages. Je rappelle le téléphone de la radio 01 46 51 00 85. Messages et questions que nous proposerons bien sûr à notre invité. Vous pouvez aussi le faire par courrier électronique à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Alors nous quittons la Saint-Barthélemy, mais peut-être serons-nous amenés à en parler quand même un peu, parce que l'histoire de l'ordre religieux que nous évoquons ce soir, eh bien commence justement au XVIe siècle. Et donc, forcément, comme c'est un des grands ordres religieux et que ces grands ordres religieux traversent l'histoire, ils prennent part, nous allons le voir, et l'accompagnent, il y aura peut-être des choses à dire sur justement son attitude durant ces guerres de religion en France, et notamment donc la Saint-Barthélemy. Alors, ces grands ordres religieux, nous en connaissons un certain nombre, bien sûr. Il y a les dominicains, il y a par exemple les franciscains, et il y a aussi les jésuites. Les jésuites, dont le fondateur a été inspiré aussi par ces deux grands ordres, dominicains et franciscains, lorsqu'il a créé justement l'ordre des jésuites. Les deux premiers ordres bénéficient d'une très bonne image, sans doute un héritage de leurs saints fondateurs, Dominique et François. Ces saints fondateurs inspirèrent d'ailleurs le fondateur des jésuites, qui est lui aussi un grand saint, Ignace de Loyola, bien entendu. Vous le connaissez tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et pourtant, malgré le prestige de leurs fondateurs, la mémoire des jésuites est plus discutée. Entre prestige intellectuel indéniable, engagement éducatif et influence spirituelle. Mais ils ont suscité, dans toute leur histoire, une certaine méfiance, sans doute due à l'influence qu'ils ont exercée auprès de grands, et à certaines controverses auxquelles ils ont été mêlés. Et pourtant, dans l'ordre des jésuites, vous avez compris que nous allons parler ce soir de l'histoire des jésuites, chers auditeurs. Et pourtant, parmi eux, que de saints, que de personnalités extraordinaires. Alors bien sûr, il y a le fondateur, leur soldat fondateur, leur général, leur premier général, puisque le chef des jésuites est un général, Ignace de Loyola. Et puis il y a aussi son ami, François Xavier, le missionnaire, hein. Puisque Ignace de Loyola, lui, est toujours resté en Italie, enfin, jusqu'à la fin de ses jours, alors que François Xavier, le missionnaire, lui, il est mort à Goa, aux portes de la Chine, qu'il voulait évangéliser. Et puis citons aussi la figure extraordinaire d'un missionnaire savant et érudit qui prend la suite de François Xavier, celle-ci de Matteo Ricci, qui lui a été enterré à Pékin. Quelle histoire extraordinaire. Je poserai d'ailleurs la question à notre invité, est-ce qu'il y est toujours? Est-ce que la tombe de Matteo Ricci est toujours à Pékin? Puisqu'il a, l'empereur de l'époque a accepté qu'il soit enterré à Pékin. Et puis, bien entendu, on pourrait mentionner le premier pape jésuite de l'histoire, pape tout récent, puisque c'est le pape François. Les jésuites, souvent critiqués, parfois sanctionnés, chassés, dissous, exclus. On est surpris d'ailleurs de cette inimitié, parfois cet ostracisme à leur égard, notamment de la part de certains papes, parce qu'ils font des vœux. Ils font 4 vœux, ce que nous explique notre historien ce soir, qui va nous parler de l'histoire des jésuites. Et dans les vœux, il y a le 4e vœu, qui est celui d'une fidélité et d'une obéissance absolue au pape.
Vérindec cadaver.
C'est dans le serment aussi? Oui. Non, c'est aussi dans le serment.
La fidélité avec la rigidité du cadavre. Périndé à cadaver.
C'est pas très sympathique quand même.
Oui, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire.
Exactement. Et on a du mal à comprendre pourquoi parfois cette hostilité à certains peuples, alors qu'ils ont toujours respecté ce vœu. En effet, ce vœu d'obéissance, c'est ce dont on se rend compte à la lecture de l'ouvrage passionnant que nous allons évoquer ce soir, qui est consacré justement à leur histoire. Donc l'ordre des Jésuites est indissociable de notre propre histoire, de notre culture et de son rayonnement. Il mérite qu'on s'y intéresse. Et c'est ce que nous vous proposons ce soir, grâce à un livre passionnant qui vient de paraître sur ce thème. Ce livre, cette Histoire des Jésuites, d'Ignace de Loyola au pape François, que Jean-Paul Bleuette publie aux éditions Talendier. Et vous avez compris, chers auditeurs, que nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Bleuette pour une première, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en aura plusieurs, Jean-Paul Bleuette.
Je l'espère.
On va traiter toute cette histoire foisonnante et si riche en une seule émission. Ça n'est pas possible. Donc nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Bleuette ce soir.
Et moi j'ai le plaisir d'être avec vous.
Et ben, c'est un plaisir vraiment partagé, je le suis aussi par les auditeurs. Jean-Paul Bleuette, bonsoir. En
tout bonsoir. Cas.
Merci d'être là ce soir en direct. Je vous présente à nouveau aux auditeurs, mais ils vous connaissent très bien, puisque vous avez été patron d'émission hein,
oui.
Pendant 7 ans, hein, 2004 à 2011, dans ce studio même. Alors, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et d'Europe centrale. Vous êtes professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, comme notre premier invité, Denis Crouzet.
Oui, bien sûr, Denis Crouzet.
Voilà, vous étiez collègue.
Tout à fait.
Et vous avez donc à Paris-Sorbonne occupé la chaire de l'histoire de l'Allemagne contemporaine et des mondes germaniques. Vous avez une vie professionnelle, une expérience extrêmement riche. Vous avez publié de nombreux livres, je ne citerai que les récents. La République de Weimar, chez Perrin, ça c'est tout récent.
Et dont nous avons beaucoup parlé.
Exactement, pour notre plus grand plaisir. Les grands ministres des Habsbourg, on est dans votre domaine en quelque sorte, hein, qui est lié à l'histoire de l'Allemagne et du monde germanique. Un livre sur Hindenburg, l'homme qui a conduit Hitler au pouvoir, chez Talendier. Marlène Dietrich, on n'a pas fait d'émission sur Marlène Dietrich. On pourrait quand même, mais on l'a pas. Vous n'êtes pas venu en parler.
Non.
C'est récent pourtant, 2019.
Non, parce que je crois qu'à l'époque, je ne vous connaissais pas, ou vous ne me connaissez pas, je ne sais pas, mais il n'y a pas eu véritablement.
Je
oui.
Je n'ai pas fait signe là-dessus, effectivement. Ça.
J'ai dû faire une émission avec. Quel est son prénom? Madame Collin.
Ah oui. Je oui. pense que nous avons. Notre première émission, c'était Les Hommes d'Hitler chez Perrin.
Oui.
Je crois bien. Hein, mais il n'empêche qu'on pourrait faire. Sur Marlène Dietrich,
je suis
musical en plus.
Vous voyez, je crois, je l'explique d'ailleurs au début du livre, qu'un historien ne doit pas nécessairement s'enfermer dans une spécialité. Mmh. Et, à vrai dire, avec ce livre chaud sur les jésuites, j'en donne en quelque sorte la démonstration, puisque certes j'ai rencontré les jésuites à deux ou trois reprises dans mes pérégrinations à travers l'histoire de l'Autriche et de l'Allemagne. Bon, je les ai rencontrés, mais fondamentalement, je ne suis pas un spécialiste d'histoire religieuse. Ça n'empêche que c'est un sujet qui, depuis longtemps, m'intéressait, et j'ai su convaincre les maisons d'édition Talendier de se lancer dans cette aventure. J'en étais ravi. Pour Marlène Dietrich, dans un genre évidemment très différent, sinon opposé, eh bien, ça a été un peu la même chose. Lorsque j'avais eu le souhait d'écrire ce livre, mon directeur littéraire de l'époque, je ne citerai pas son nom, m'avait dit « Ah non, 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 parce que ça n'est pas dans votre domaine et vos lecteurs ne comprendraient pas que vous fassiez ce détour. » Bon. Alors, un autre éditeur a été tout à fait d'accord et donc ça s'est fait. Et je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Mais il est possible qu'une autre fois, je fasse un nouveau détour en dehors de mes chemins habituels.
Vous avez certainement quelques idées en tête. Vous gardez secrète, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Pour rendre surprise.
Bien sûr.
En tout cas, votre éditeur Talandier a accepté ce détour.
Ah oui.
De votre part.
Cette ah oui,
fois-ci,
absolument.
Il a compris.
Oui.
Il a dit, voilà, je ne l'ai.
Là, il n'y a pas eu de difficulté.
Alors justement, cette question, parce que je souhaitais bien sûr vous la poser, parce que on n'est pas effectivement dans le cœur de vos recherches, de vos publications, qui sont liées bien sûr à l'histoire de l'Allemagne et du monde germanique contemporain. On s'en éloigne un petit peu, mais vous écrivez dans l'introduction, en réalité, nous avons mis très tôt nos pas dans ceux des jésuites. Donc vous avez manifesté un intérêt très tôt pour les jésuites.
Effectivement, j'ai été très tôt intéressé, voire fasciné par les jésuites. Alors, dans mon histoire personnelle, je les rencontre très tôt. Pourquoi ? J'ai été élève au lycée Charlemagne, à Paris. Bon. Le lycée Charlemagne, avant d'être le lycée Charlemagne, avant d'être transformé, devenu un lycée napoléonien, n'est-ce pas ? C'était la maison professe des jésuites à Paris. Et à côté du lycée Charlemagne, il y a une église jésuite par excellence, qui est l'église Saint-Paul-Saint-Louis. L'église jésuite. Autre détail sur ma vie antérieure, comme élève du lycée Charlemagne, c'est là que j'ai fait ma première communion, dans cette église Saint-Paul-Saint-Louis. Donc, j'ai une relation, si on peut dire, ancienne. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas vraiment. Mais j'ai une relation ancienne avec les jésuites.
Et à partir de quel moment vous avez eu cette idée, ce désir d'écrire donc, cette histoire des jésuites? Comment ça s'est concrétisé? Vous avez donc, vous nous expliquez que dès l'enfance, en quelque sorte.
Oui, dès l'enfance.
Vous avez cité avec cet ordre. Mais quand dans votre vie d'historien, ça se concrétise, vivant, ça se transforme, tiens, je vais écrire cette histoire des jésuites.
Je dirais que c'est certainement une forme de maturation. C'est... D'abord, il y a l'intérêt pour un ordre de moine-soldat. Hein. Et puis ensuite, à travers mes travaux sur l'Autriche et sur l'Allemagne, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Parce que, alors évidemment, je développe ce point abondamment dans le livre, ils ont été extrêmement liés à la contre-réforme, aussi bien en Autriche qu'en Bavière. Et on peut dire que sans les jésuites, peut-être aujourd'hui, Vienne, l'Autriche serait une ville, un pays protestant.
En effet, vous expliquez dans votre livre, lorsque vous en arrivez à l'histoire des jésuites en Autriche, qui sont appelés par... comment s'appelait
Ferdinand.
Ferdinand. Ils sont appelés par Ferdinand. 80% des Autrichiens sont protestants. C'est impressionnant. 80%. On ne s'imagine pas ça, parce que on a l'image de l'Autriche que vraiment... Alors, ce n'est pas un royaume, mais on va dire un royaume catholique, mais ce n'est pas tout à fait exact. Mais 80% étaient protestants.
Oui.
Ça montre l'œuvre qu'ils ont réalisée.
Et au départ, un petit groupe, ils étaient une dizaine, qui sont arrivés à l'appel de Ferdinand. Donc c'est capital, parce que sans eux, mais aussi sans la dynastie qui est restée imperturbablement fidèle au catholicisme, eh bien, sans cette double fidélité, effectivement, aujourd'hui, Vienne serait une ville protestante, oui. Probablement, et de même, l'Autriche serait un pays protestant.
Et pourtant, dans ce premier chapitre, aux origines de la société de Jésus, puisque nous allons parcourir cette histoire avec vous, notamment l'histoire des origines, vous écrivez que dans la mémoire collective, les jésuites sont souvent identifiés à un fer de lance de la contre-réforme catholique. C'est ce que vous expliquez, bien sûr, oui. Pour l'Autriche, mais aussi donc pour la Bavière, et nous le verrons avec vous pour d'autres pays. Pour autant, ajoutez-vous, la lutte contre le protestantisme est étrangère aux motivations qui inspirèrent Saint Ignace de Loyola lorsqu'il décide de créer la Société de Jésus.
Oui, la motivation première, c'est de participer à une réforme catholique. C'est un mouvement qui prend conscience de la nécessité, de l'urgence d'une réforme, mais pas hors de l'Église, comme le protestantisme le fait, comme Luther, Calvin et les autres le font, mais à l'intérieur de l'Église. Et l'ordre des Jésuites, qui naît en 1540, et qui procède d'une maturation, le parcours de Saint-Ignace, enfin du futur Saint-Ignace, s'inscrit dans ce courant dit de la réforme catholique, d'une volonté de réformer l'Église. Mais à l'intérieur toujours de l'Église, il n'y a à aucun moment question de la quitter.
D'où ce quatrième vœu. Hein. Vous allez bien sûr nous expliquer l'histoire de ce quatrième vœu d'obéissance absolue. Vous avez utilisé le terme d'ordre de moines soldats. Ce n'est pourtant pas l'image des jésuites que l'on a maintenant. On a un peu l'image, le jésuite, justement, être jésuite, ce n'est pas tellement être moine soldat, quoi. C'est un peu naviguer.
Oui, mais à côté de cela, ils ont une organisation dès le départ, une organisation fondée sur le principe de discipline et qui peut, à certains égards, s'apparenter à une discipline militaire. Même finalement, alors certes, en ce qui concerne le futur Saint-Ignace, il a une carrière militaire dont il se sépare, mais il a eu un long moment où il a été soldat. D'ailleurs, il a été blessé grièvement, et c'est dans cette période de convalescence qu'il réalise une forme de conversion qui va l'amener, par un lent processus, à créer cet ordre.
Alors, la question que j'aimerais vous poser, nous aurons bien sûr rentré dans l'histoire de cet ordre, et c'est naturellement l'histoire tout d'abord de Saint-Ignace de Loyola. Et pourquoi faut-il s'intéresser à l'histoire des jésuites, hormis l'intérêt, le plaisir qu'on a à lire votre livre? Mais pour commencer cet entretien, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'histoire des jésuites?
Ils ont été et sont toujours un des piliers de l'Église catholique. La meilleure preuve, c'est que tout récemment encore, ils ont donné à l'Église un pape, le prédécesseur de Léon XIV, qui lui est augustinien, et ce pontificat, il a marqué l'histoire de l'Église de son empreinte. Donc, en s'intéressant aux jésuites, on s'intéresse à l'histoire de l'Église, et jusqu'à au temps, on peut dire, immédiat.
Donc c'est aussi notre histoire, en quelque sorte.
C'est notre histoire, bien sûr. Alors, notre histoire ne se résume pas aux jésuites, évidemment, mais ça va de soi. Mais c'est un pan important de notre histoire.
Aurait-elle été différente sans les jésuites, sans Saint-Ignace, sans François-Xavier, Matteo Ricci?
Je pense que l'histoire de la chrétienté, en tout cas, aurait été très différente.
Et celle de l'Autriche aussi, vous venez d'en parler.
celle de l'Autriche, la Bavière.
Oui, bien sûr. Aussi, alors que c'est vraiment deux pays qui sont éminemment pour nous, en tout cas, catholiques. Alors, je vous propose, Jean-Paul Blette, si vous le voulez bien, de commencer cette histoire qui démarre naturellement avec, il n'est pas encore saint, avec Ignace de Loyola, mais vous l'expliquez aussi, c'est que les Jésuites, la création de la Compagnie de Jésus, participent en fait d'un mouvement d'ensemble.
Oui.
Où il y a effectivement l'apparition d'ordres vivants et organisés en petites communautés, ce qui va être l'histoire d'ailleurs des Jésuites.
Oui, c'est un ordre qui se distingue des dominicains, des franciscains, qui sont deux ordres évidemment fondamentaux, en ce qu'ils vivent dans le monde. Un jésuite ne vit pas dans un couvent. et de cela depuis le début. C'est d'ailleurs un des reproches que leur a fait un des papes qui leur a été hostile, c'est-à-dire Paul IV, qui avait, si on peut dire, une dent personnelle contre Saint Ignace, et qui, une fois qu'il a accédé au trône de Saint-Pierre, a cherché à régler les comptes, et par conséquent, en contraignant, enfin, en cherchant à contraindre les jésuites à adopter un certain nombre de pratiques communes aux moines d'autres ordres. Et d'autre part, puisque dans les constitutions de l'ordre, il est dit que le supérieur général est élu à vie, ben, en ce qui concerne Paul IV, il voulait revenir sur cette disposition, il est revenu dessus, et la réforme qu'il a introduite, c'était une durée de 3 ans, mais il a été rappelé au Seigneur trop tôt pour que cette réforme puisse véritablement s'appliquer, et son successeur a rétabli les constitutions telles qu'elles étaient, et donc c'est le système que nous connaissons aujourd'hui d'un supérieur général qui est élu à vie.
Avec la possibilité de démissionner, en fait, aussi. Hein,
oui,
qui apparaît,
absolument.
Qui apparaît assez tardivement.
Très tard.
C'est ça. Donc, nous aussi, nous allons parler. Je vous propose de commencer avec l'histoire d'Ignace de Loyola, si
bien
vous
sûr.
Le voulez bien, Jean-Paul.
Bien sûr.
Alors, quelle est l'histoire d'Ignace de Loyola?
Bien, je dirais que, au point de départ, hormis le fait qu'il est né dans une famille catholique, mais à cette époque, et encore largement aujourd'hui, qui en Espagne ne naît pas dans une famille catholique? Donc ce n'est pas particulièrement original. Alors, il va commencer une carrière militaire qui l'amène à participer à un siège. C'est déjà l'époque des guerres entre la France et l'Espagne. François Ier et Charles Quint. Et lors du siège de Pampelune, qui est assiégé par les Français, il est grièvement blessé. Il est donc gravement atteint. Une opération chirurgicale qui va laisser des traces. Il garde une claudication. Et puis en même temps, il y a la période de convalescence qu'il réalise chez lui. Et là, il va entreprendre ce qui lui manquait précédemment, à savoir son éducation. Et son éducation religieuse. Il lit beaucoup dans cette période de convalescence, et notamment, peut-être pas exclusivement, mais notamment et surtout, les ouvrages à orientation religieuse. Donc, il se façonne, il acquiert une éducation religieuse qui lui manquait, et c'est tellement vrai que lorsqu'il sort de cette période de convalescence, il ressent la nécessité de poursuivre cette période de formation, comme en cela, en entreprenant des études de théologie, il était totalement ignorant dans ce domaine, ou entreprendre ses études de théologie à la Sorbonne. Et donc, il se rend à Paris et il va être formé en matière philosophique et en matière théologique à la Sorbonne. Alors, c'est... Il y a quelque chose de... un peu ironique, parce que, évidemment, il ne le sait pas à ce moment-là, mais assez rapidement, la Sorbonne va devenir un des bastions anti-jésuites. Et dans toute cette histoire, on va dire jusqu'à l'abolition de l'ordre en 1773, en différentes occasions, les jésuites ont trouvé en face d'eux la Sorbonne. Alors, on aura l'occasion certainement d'en reparler à chaque fois, mais en tout cas, ça va être une constante que cet affrontement. Et il n'empêche que Saint Ignace, Saint François-Xavier et quelques autres sont des produits de la Sorbonne, sont des fils de la Sorbonne.
Ils se sont rencontrés à la Sorbonne.
Absolument.
Alors, c'est la question que je souhaitais vous poser, parce qu'il rentre à la Sorbonne en 1528, il y reste 7 ans, il est né en 1491, oui. Donc il a un peu plus de 30 ans quand il arrive à la Sorbonne. Les exercices spirituels, ces fameux exercices spirituels, nous avons un auditeur qui nous pose la question, il les a écrits avant d'arriver à Paris?
Ah non. Non,
il les a écrits
c'est
après.
Une période de très longue maturation. Ça s'étale sur plusieurs années.
Donc il n'a pas encore écrit ses exercices spirituels.
Alors, il a probablement commencé jeter les premiers maillons, mais il n'a certainement pas fini de les composer. C'est une œuvre, encore une fois, qui s'étale dans le temps et sur de nombreuses années. Alors, il les aura terminés, évidemment, avant de disparaître, mais pas tellement longtemps avant.
Oui, d'accord. Donc,
À Paris, il ajoute pierre après pierre, donc il ajoute des pierres à Paris, certainement, mais le monument définitif n'est pas encore terminé.
Parce qu'il y a un auditeur qui vous pose cette question personnelle, Jean-Paul Blaise. Votre invité a-t-il pratiqué les retraites ignatiennes, ces fameux exercices spirituels?
Alors, ma réponse
est... Et si oui, sait-il pourquoi elles sont autant courues?
Alors, ma réponse est non, je l'avoue. Il n'est jamais trop tard. Et donc, rien ne dit que je ne le ferai pas, mais en tout cas, à ce jour, je ne l'ai pas fait. Je ne les ai pas faites.
Vous en connaissez la particularité, la méthode
c'est une
suivie méthode, par Saint Ignace. Hein.
C'est une méthode très stricte qui est fondée sur la méditation. Et à travers la méditation, avec l'aide d'un instructeur, donc au départ, ce n'était pas par rapport à Saint Ignace, ce n'était pas Saint Ignace qui se pratiquait lui-même, mais petit à petit, c'est lui qui a servi d'instructeur auprès d'autres, et notamment ceux qui vont être ses compagnons.
C'est ça, oui.
Les uns après les autres.
Il est leur directeur spirituel.
Voilà.
Ces six compagnons qu'il rencontre... Six étudiants comme lui à Paris.
À la Sorbonne.
Mais il a. Parce qu'il est plus âgé, pourquoi c'est peu, ça vient naturellement. Il y a François-Xavier. Hein,
oui. Alors il est un peu plus âgé, mais il y a d'abord une sorte d'autorité personnelle qui se dégage, qui se dégage de sa personne et qui fait que sans difficulté, il établit. Une forme de patronage, en quelque sorte, sur eux.
Ils ont un objectif particulier, ces six.
Alors, au départ,
amis,
non.
Comment ça va?
Au départ, non.
Oui.
Ils se rencontrent à la faveur de leur présence à Paris, dans différents collèges de Paris. Donc, ils se rencontrent, ils se pratiquent, et progressivement, il y a une amitié qui les lie. Alors, à ce moment-là, il n'est absolument pas encore décidé de créer un nouvel ordre. Là encore, comme pour les exercices spirituels, c'est un phénomène de maturation. Donc, progressivement, qu'ils vont y arriver. Et ça aboutit à leur serment en 1534 dans la chapelle d'un couvent parisien à Montmartre, où ils font le serment de rester ensemble. Alors évidemment, on peut, d'une certaine manière, c'est un pas qui a été franchi dans la direction d'un ordre, mais ce n'est pas encore cela. C'est une étape vers cet aboutissement, mais ils ne le savent pas encore vraiment.
Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, en tout cas,
voilà.
De cette amitié qui les unit. Et qui, donc, mais il n'y a pas de statut, non,
c'est, pas
ça,
encore.
On reste ensemble.
Ça va venir, évidemment, ça va être les constitutions, mais à ce moment-là, elles ne sont pas rédigées. Alors, ce qui, probablement, a joué un rôle déterminant, et qui, d'une certaine manière aussi, annonce la suite, c'est que, d'abord, ils ont... Oui, il y a un point sur lequel ils sont tout à fait solidaires. Ils voudraient se rendre en Palestine, se rendre en Terre Sainte. Saint Ignace, lui, a fait le voyage. Il s'est rendu.
Avant d'aller à Paris, il est déjà allé...
Absolument.
Oui.
Les autres, pas. Et donc, il souhaitait y retourner, et les autres souhaitent y aller. Bon. Alors, il y a des difficultés pour s'y rendre. On ne se rend pas en Palestine comme cela. Il y a la conjoncture de l'époque. La Palestine est alors aux mains des Ottomans. Et les Ottomans peuvent accepter, mais ils peuvent aussi mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça n'est pas simple. Et ils décident, à ce moment-là, que si un obstacle se met en travers de leur route, s'ils ne peuvent pas, comme ils le souhaitent, se rendre en Terre Sainte, eh bien, ils rendront visite au pape. Alors, on voit apparaître la figure du pape, qui va évidemment occuper une place centrale dans ce cheminement. Et effectivement, ils ne peuvent pas se rendre en Palestine, et donc, ils partent pour Rome, où ils sont reçus par Paul III. Et c'est là que germe l'idée de continuer ensemble l'œuvre qu'ils ont commencé d'entreprendre et que s'impose en quelque sorte l'idée de former un ordre. Et cet ordre, il décide de l'appeler Compagnie de Jésus.
Comment est venue cette idée, Compagnie de Jésus? Pourquoi Jésus? Vous parlez d'une vision que Ignace aurait eue du Christ portant sa croix.
Oui. C'est le... Alors, c'est juste, effectivement, il a eu cette vision, mais lorsqu'il a cette vision, la résolution de fonder l'ordre est déjà prise. Et au fond, oui. La vision vient conforter
la volonté
de constituer cet ordre.
Et que veulent-ils faire? Qu'Ignace veut-il faire de cet ordre? Dans quel but? Dans quel objectif?
C'est un ordre qui doit être missionnaire. Alors le mot mission, devant se comprendre, non pas de mille façons, mais de plusieurs façons. La première façon à laquelle on pense, et qui va se réaliser, qui sera un volet essentiel de l'activité de l'ordre, c'est les missions extra-européennes. Alors il n'y a pas lieu d'en être surpris, puisque nous sommes, à quelques années près, au moment des grandes découvertes. Donc, les Européens, ça veut dire en premier lieu à ce moment-là les Espagnols et les Portugais, les Français viendront après, donc les Espagnols et les Portugais découvrent des terres nouvelles. Des terres nouvelles qui comprennent des habitants, des populations. Ces populations, il faut les évangéliser. Et ce sera leur tâche, elle ne leur sera pas exclusivement réservée, d'autres ordres vont se lancer dans l'aventure, mais ce sera une mission fondamentale de l'ordre des Jésuites, qui va devenir ainsi un ordre planétaire. Ça, c'est une caractéristique fondamentale. Alors, on verra comment ils pratiquent ces missions, leur pratique étant très particulière, très novatrice. Par ailleurs, on va en venir, alors il y a l'évangélisation hors d'Europe, mais on en arrive maintenant à l'évangélisation en Europe, ça veut dire dans les pays qui ont été gagnés au protestantisme. Une des missions nouvelles, encore une fois, ce n'était pas la motivation première, mais elle devient une mission, une motivation essentielle, ça va être de regagner les âmes qui ont été gagnées au protestantisme et donc perdues au catholicisme. Alors ça va nous amener, effectivement, on en parlait tout à l'heure, dans les pays autrichiens, c'est l'Autriche actuelle, mais c'est plus large, la Bavière, les pays allemands de manière générale. Et puis, il y a d'autres missions qu'ils ont commencé à pratiquer lorsqu'ils étaient ces fameux sept. C'est le soin des pauvres, le soin apporté aux malades, le soin apporté aux soldats. Donc, il y a toute une série de volets qui enrichissent encore cette dimension des missions.
Mais lorsqu'Ignace crée cet ordre, donc la naissance de l'ordre, hein, c'est le 27 septembre 1540, c'est oui. La bulle de Paul III qui officialise la naissance de la société donc, de Jésus. Au début, ils sont sept.
Oui.
Et lors de la bulle fondatrice... La Constitution, en quelque sorte, limite le nombre à 60. Hein, oui. C'est ce que vous oui. écrivez, Jean-Paul Bette, dans votre livre. Alors, ça a bien changé.
Évidemment, ça peut nous faire sourire parce que on sait le développement presque exponentiel
oui.
qu'a eu l'ordre. Mais ce chiffre de 60 n'est pas non plus vraiment surprenant. Parce que dans ces années, la fin de la première moitié du XVIe siècle, les jésuites ne sont pas le seul ordre créé. Il y en a quelques autres. Et ces quelques autres, eh bien, ont un développement finalement relativement réduit. Donc, se fixer cette limite de 60, au moment où, où cette limite est indiquée, n'est pas surprenant. Mmh. Vous avez les théatins, les barnabites, qui sont dans ce cadre, et c'est également à ce niveau qu'est prévu le développement de ces ordres nouveaux. Donc, on s'inscrit dans un courant général. Mais effectivement, les choses vont changer très rapidement.
Oui.
Parce que, à la mort de Saint Ignace, en 1556, eh bien, on est passé à 1000. Mais donc, de 60 à 1000.
En 10 ans, c'est exponentiel. Justement, voilà. La question, j'ai une double question, Jean-Paul Lede, à vous poser. quelle organisation, sur les premiers temps, les temps héroïques, ce que vous avez qualifié de temps héroïques, comment Ignace organise-t-il cette compagnie de Jésus, quel est le rôle de chacun, quel est le rôle par exemple de François Xavier avant qu'une parte pour les Indes, parce que João Ier, le roi du Portugal, oui, les demande. Voilà, quelle est l'organisation des débuts et comment passe-t-il de quelques-uns, d'une poignée, à 1000? Qu'est-ce qui attire?
Et alors,
l'évocation
1000 et 8000 à la fin du siècle.
Et 8000 à la fin du siècle, bon, c'est gigantesque.
C'est gigantesque.
Oui. Qu'est-ce qui attire les...
Alors, d'abord, ça repose sur une organisation extrêmement structurée. Et on pourrait même dire centralisée. On retrouve peut-être là...
Très militaire.
Voilà, peut-être, peut-être. Hein,
l'esprit bon, commando.
Oui. Si vous voulez, ça peut être très positif, hein, bien sûr. Donc, très structuré, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très tôt, d'abord, il y a l'organisation de l'ordre qui est fixée par un texte, ce sont les constitutions. C'est un texte qui a été rédigé par Saint Ignace, qui a donc, parmi ses nombreuses qualités, celle d'un grand organisateur. Ça, c'est indéniable. Bon, donc, les jésuites vont être très rapidement subdivisés en provinces. Alors, ce qui suppose effectivement qu'ils acquièrent un certain nombre, que leur nombre progresse rapidement. Parce que s'ils en étaient à 60, une organisation en province n'aurait pas eu de véritable justification. Là, c'est différent. Très vite, on franchit des étapes. Et par conséquent, progressivement, au fur et à mesure qu'il y a un ancrage local, régional, une province est créée. Et ensuite, cette province, chaque province, est organisée, elle aussi, de manière très structurée, avec un provincial qui, sur sa province, a l'autorité que le supérieur général exerce sur l'ensemble de l'ordre. Donc on a une structure, on peut dire, pyramidale, mais avec des éléments qui, en quelque sorte, s'emboîtent les uns dans les autres. Ensuite, le lien entre les provinces et Rome, puisque l'ordre est domicilié à Rome, près du pape, on revient toujours à ce point capital, eh bien, le contact entre les provinces et Rome est un contact régulier, pour ne pas dire permanent. Ça veut dire qu'il y a des correspondances régulières de Rome aux provinces, des provinces à Rome. Donc, tout cela, évidemment, travaille dans le sens de la solidité, de la solidarité aussi, évidemment. Alors, il y a un autre point qui joue en faveur de ce développement de l'ordre. Un point qui n'était pas prévu au départ par Saint Ignace, mais qui s'impose très vite. C'est la mission d'enseignement.
Comment ça vient, justement, cette mission d'enseignement, cette vocation particulière?
Ça renvoie à une demande qui est adressée à Rome, qui est adressée à Saint Ignace. Et, alors qu'il n'y avait pas songé initialement, il répond favorablement. Les premiers, ça vient de Messine, donc en Sicile. Et il répond favorablement. Et pour fonder le premier collège en Sicile, il envoie un de ses plus proches, Geronimo Nadal, qui est un ressortissant des Baléares, comme le même nom que le...
Comme le joueur de tennis.
Comme le joueur de tennis, qui est des Baléares.
Que des gens brillants chez les Nadal.
Alors, je n'ai pas dit que Nadal avait été l'avait jésuite. Ça, je ne l'ai pas dit. Je n'en sais rien. Peut-être que oui. Mais en tout cas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le même nom. Et la même origine. Et donc, il envoie cette personne qui est très proche de lui pour veiller à l'installation de ce premier collège. Et c'est une réussite. À partir de quoi, eh bien, l'ordre va essaimer à travers l'Europe catholique et partout où ils arrivent, partout où ils s'installent, ils créent des collèges.
Donc c'est une nouvelle vocation qui s'ajoute à la vocation missionnaire. Donc il y a un peu une double mission.
Oui, mais à la limite, on pourrait dire que ça participe aussi de cette vocation missionnaire.
Oui, c'est indéniable. Oui, c'est lié, forcément. Oui. Oui. Donc c'est les... Oui. Et alors, effectivement, les jésuites vont créer des universités, des collèges fameux, et à Rome notamment, la célèbre université grégorienne.
Oui.
Elle date de l'époque aussi d'Ignace de Loyola.
Tout à fait.
L'université grégorienne.
Ils ont appelé le Collegio Romano. Et ce Collegio Romano, donc au départ, c'est un collège. Un collège parmi les collèges. Et puis, de collège, on passe à l'université et ça va devenir la fameuse grégorienne.
Parce que l'image qu'ils ont est à juste titre. Hein. Notamment, on voit à travers... ces collèges, les jésuites ont la réputation de personnes brillantes, intelligentes.
Ah oui, certainement.
Et érudites, quand on voit Ignace, bien sûr, mais on pense aussi à Matteo Ricci, et puis à bien d'autres encore. Qu'est-ce qui fait que les jésuites, justement, ont cultivé cette brillance intellectuelle qui est... Et parce que les gens intelligents attirent d'autres gens intelligents, comment ça s'est créé ?
Il est possible, voire probable, que ce phénomène existe, que l'intelligence appelle l'intelligence, mais il faut aussi revenir à leur système d'enseignement. Il n'y a pas simplement la décision de créer des collèges, de développer l'enseignement, mais quel enseignement ? C'est un enseignement, effectivement, très spécifique. L'enseignement jésuite développe un humanisme chrétien. C'est ça la marque distinctive de cet enseignement jésuite. Ça veut dire que on pratique pratiquement en permanence les langues anciennes, au premier chef le latin. Je dis au premier chef parce que le grec aussi, on le pratique, mais pas exactement de la même manière, c'est-à-dire que le latin est utilisé comme une langue vivante. C'est-à-dire que le professeur enseigne à ses élèves en latin, les élèves répondent au professeur en latin, et à côté de cela, les élèves entre eux se parlent en latin, pas en grec. Donc, il y a une familiarité considérable avec le latin qui devient, en quelque sorte, une seconde langue vivante. Et ça, c'est une spécificité des jésuites, de toute évidence. Alors ensuite, après quatre premières années, on en arrive... aux deux dernières années, qui sont consacrées à la philosophie et à la théologie. Donc, nous avons, pour reprendre une formule d'un humaniste français, des têtes bien pleines, bien faites et bien pleines. Le bien fait étant essentiel, parce qu'il ne suffit pas qu'elles soient bien pleines, il faut aussi qu'elles soient bien faites. donc des têtes bien faites et bien pleines. Et cela contribue certainement à leur donner une forme de supériorité. Or, j'ajouterais, il faut aussi préciser, que toutes les disciplines que nous venons d'évoquer, évidemment, elles jouent un rôle essentiel. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi une contribution aux sciences, et notamment aux mathématiques. Et les jésuites vont donner de nombreux grands mathématiciens. Alors le plus connu, c'est Matteo Ricci, dont le nom a été déjà cité plusieurs fois, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. C'est une, là encore, une marque de l'identité jésuite que de se consacrer aux sciences, donc mathématiques, physique, astronomie, ils sont également très présents dans le domaine de l'astronomie. Donc, vous voyez, c'est un ensemble très vaste, très large. Et ceci contribue certainement aux succès qui ont été les leurs en Europe et hors d'Europe. On a évoqué déjà à plusieurs reprises au cours de l'émission la Chine. Eh bien, évidemment, ils ont été des sortes de modèles.
Oui, nous allons bien sûr parler de cette expansion, d'abord en Europe, et puis en effet hors d'Europe, où ils vont aller vers l'Inde, à la demande d'ailleurs hein, de João III, le roi oui. du Portugal. En Europe... les bastions jésuites, expliquez-vous, Jean-Paul Bled, dans votre livre « Histoire des jésuites » d'Ignace de Loyola au pape François, que vous publiez aux éditions Talendier, les bastions jésuites en Europe, c'est d'abord le Portugal. Et en effet, il y a, dans cette période, 550 jésuites qui sont présents au Portugal.
Et donc, ils vont se
développer au-delà du Portugal, justement, en accompagnant la colonisation portugaise.
Au Brésil.
À la demande au Brésil et puis aussi donc en Inde.
Oui, bien sûr.
Avec François Xavier, ça nous allons l'évoquer. En Espagne, c'est plus difficile. Vous dites que Charles Quint est réservé à l'égard des jésuites.
Oui, et ça sera la même chose pour son fils Philippe II. Il y a une sorte de méfiance. Se demande s'il ne risque pas de devenir une sorte de puissance qui, à force de gagner du terrain, pourrait être un contre-pouvoir, en quelque sorte. C'est cette inquiétude. Et le point par rapport à Charles Quint, il y a un élément un peu curieux et une sorte d'ironie de l'histoire. L'ordre des jésuites est interdit aux femmes. Bon, ça, c'est... rien de curieux, mais c'est ainsi, c'est une confirmation. Mais il y a eu dans l'histoire des jésuites une femme
oui, vous
qui est entrée
cela.
Dans l'ordre, alors sous un nom Juana. Masculin.
Oui.
Mais qui est cette femme? C'est une des deux filles de Charles Quint. Donc celui-là même qui avait certaines réticences à l'ordre des jésuites, eh bien, une de ces deux filles. Est devenue jésuite.
C'était bon. La seule.
C'est la seule de toute l'histoire.
Mais qu'a-t-elle fait, la pauvre? Elle a dû seule femme chez les jésuites. Elle n'a rien pu.
Non, elle n'a rien fait de particulier dans cet ordre. Elle a sa foi, mais pour le reste, elle a secondé son père puisqu'elle a été régente d'Espagne.
Oui, en effet.
Évidemment, ça lui prenait beaucoup de temps. Mais elle tenait, si cela était possible, pour elle, on a trouvé une dérogation.
Alors, nous allons bientôt faire une petite pause, un message de la radio et puis une pause musicale. Une dernière question, c'est aussi la situation en France,
oui.
Qui est plus difficile étonnamment. Et l'université et le Parlement n'aiment pas les jésuites. Hein. On se demande pourquoi.
Oui, bien, la raison, il y a plusieurs raisons. Il y a celle qu'on vient de voir pour Charles Quint et Philippe II. Est-ce que ces jésuites ne constitueraient pas un potentiel contre-pouvoir. Dans cette hypothèse, il serait dangereux. Mais il y a une autre raison qui est probablement plus importante que celle-ci. À savoir, que ce soit la Sorbonne, que ce soit le Parlement de Paris et d'autres parlements, ils participent du gallicanisme. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, le quatrième ordre, le quatrième vœu des jésuites, c'est la fidélité absolue au pape. Est-ce que cette fidélité absolue au pape ne risque pas de se mettre en contradiction avec la fidélité au roi, avec le gallicanisme? Et donc, et la Sorbonne et le Parlement de Paris sont des héros du gallicanisme, et donc, ils voient les jésuites d'un très mauvais œil. Ce qui explique les querelles régulières qui les opposent aux jésuites, et le rôle qu'ils joueront, alors nous ne sommes pas encore, mais on peut déjà l'annoncer, le rôle qu'ils joueront au XVIIIe siècle dans le processus d'abolition des jésuites et d'expulsion des jésuites hors de France.
Mais déjà à cette époque, c'est le cas, puisque vous écrivez que l'attentat de 1594 contre Henri IV conduit le Parlement de Paris, mais aussi le Parlement de Rouen et de Dijon, à éditer un arrêt d'expulsion contre l'ordre des jésuites.
Oui.
Mais on ne comprend pas très bien pourquoi. En fait, c'est une opportunité pour se débarrasser des jésuites,
oui,
pour
la
raison que vous expliquez.
Oui.
Quel est le lien entre l'attentat contre Henri IV et le fait d'en profiter, en quelque sorte, de saisir cette occasion?
On saisit cette occasion parce que, très probablement, les jésuites n'ont en aucune façon été liés à cet attentat. Mais il était facile de leur en faire porter la responsabilité, de faire croire qu'ils avaient participé à ce complot, voire qu'ils l'avaient ourdi. Donc, à partir de là, on pouvait prononcer une mesure d'expulsion.
Ils vont réellement être expulsés de
France ?
Oui,
mais ça a été si court que quasiment ça n'a pas existé.
Oui, aussi en 1603.
Oui.
On a toujours dit, ça fait presque 10 ans. 1603, une décision royale, ces interdits sont levés. Et Henri IV leur confie le fameux collège royal de la Flèche.
Ce qui est effectivement extrêmement intéressant, c'est que celui dont, à l'assassinat duquel ils étaient censés avoir participé, eh bien, va les traiter avec beaucoup de bienveillance. Non seulement il favorise la création de ce grand collège,
le fameux Prytané,
voilà, à la Flèche, mais en plus de cela, et ça c'est une marque évidemment considérable de soutien, il choisit chez les jésuites son père confesseur, le père Coton. Et ça, ça a été ce que l'on constate ici avec le père Coton et Henri IV. On le vérifie dans plusieurs monarchies catholiques, par exemple en Bavière ou l'Autriche, on en a parlé tout à l'heure. Partout, les confesseurs sont choisis parmi les jésuites.
Mais le père Coton a dû avoir pas mal de travail, non ? Avec Henri IV.
Je n'ai pas recueilli ses confidences.
Il n'y a pas beaucoup de vitalité, n'est-ce pas? Nous faisons une pause musicale après avoir écouté un message de la radio. Alors, vous avez choisi un Joseph Haydn, le Gloria de sa messe, Missa in tempore belli. Mais en tout cas, pourquoi avez-vous fait ce choix, Jean-Paul Bled?
Oh bien, évidemment, il aurait été peut-être encore mieux de choisir une messe datant du XVIe ou du premier XVIIe, mais à vrai dire, je n'avais pas de nom en tête précis, et donc, comme je pratique assez souvent les messes chantées à Vienne. Je connais des messes de Haydn. J'ai pensé à lui. Voilà.
Très bien.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir en cette deuxième partie d'émission de recevoir Jean-Paul Bled à l'occasion de la publication de son livre « L'histoire des jésuites » d'Ignace de Loyola au pape François qu'il publie aux éditions Talendier. Dans un premier temps, Jean-Paul Bled nous a expliqué la genèse de cette histoire. C'est tout d'abord naturellement Ignace de Loyola, militaire espagnol, soldat espagnol gravement blessé, donc dans son lit de convalescence, lecture, conversion, départ pour Paris pour se former, rencontre d'un groupe de 6 amis, ils font un groupe de 7, dont le fameux François Xavier qui viendra le missionnaire. Ils se regroupent et c'est ce regroupement, ce serment entre les 7 de ne pas se séparer, eh bien c'est ça qui conduit justement à la naissance de l'ordre des Juifs, avec tout d'abord une intention missionnaire, et puis qui va évoluer avec la structuration de cet ordre, hein, avec comme des premiers points d'appui, en quelque sorte des premiers bastions, notamment le Portugal, avec l'appui du roi João III du Portugal, et c'est ça qui va permettre le développement missionnaire. Bien entendu, nous allons l'aborder avec Jean-Paul Bled, puisque François Xavier va accompagner en quelque sorte l'expansion coloniale du Portugal dans la conversion très lointaine, l'Inde, le Japon, jusqu'aux portes de la Chine. Et il y a effectivement cette première vocation missionnaire qui trouve là ses premières concrétisations. Mais il y a aussi une deuxième vocation qui, elle, est issue en quelque sorte de la demande du terrain, qui est l'éducation. L'éducation qui va aboutir avec une méthode justement particulière aux jésuites, qui va plaire, eh bien ça va aboutir à la création de très nombreux collèges partout en Europe, puis après dans le monde, dont certains demeurent très célèbres. Effectivement, l'université grégorienne de Rome, mais on peut parler aussi le Clementinum de Prague, oui. Ça existe toujours, Jean-Paul Bell, de Clementinum.
Oui, tout à fait, à Prague.
Et puis bien d'autres exemples encore. Voilà, double vocation. Est-ce que, on peut dire, ces deux jambes, en quelque sorte, qui sont l'ordre jésuite, il y a deux jambes, une jambe missionnaire et une jambe formatrice. Y a-t-il d'autres missions qui vont apparaître?
Ce sont deux jambes, peut-être, mais deux jambes qui marchent d'un même pas.
Oui, ben... oui, ça va,
ça va ensemble. Ça va ensemble.
Exactement. Nous avons de nombreux messages d'auditeurs, oui. Et je vous les propose. Alors, un auditeur, on imagine mal de futurs jeunes saints, parce que c'est vrai qu'Ignace voulait devenir saint, il a clairement dit.
Et il est devenu.
Et il l'est devenu.
Oui, il est parfaitement après sa mort, évidemment.
Et de futurs jeunes saints enthousiastes venir se soumettre à un pape farnèse, Paul III, qui pratiquait le népotisme, avait des enfants naturels et vivait dans le luxe. Une forme de dissonance cognitive, nous dit cet auditeur. Bon. Alors avec Paul III, ça s'est bien passé. C'est Paul IV hein,
oui.
qui a voulu abroger le généralat à vie.
Exactement. Et puis... obliger les jésuites à reprendre certaines pratiques de la vie monastique qui ne figuraient pas dans les constitutions et dans la gouvernance de l'ordre. Alors, j'avoue là ne pas être en mesure de répondre parfaitement parce que je ne sais pas jusqu'où allait la connaissance qu'avait le futur saint Ignace ou le futur saint François Xavier et les autres des mœurs de Paul III.
Oui.
Et des autres, parce que c'était pas une... Malheureusement, c'était pas une spécificité de celui-ci. Celui-là ou tel autre avait aussi ses turpitudes. Bon. Mais... au-delà de l'homme, ce qu'il voyait, c'était la fonction et le rôle capital, majeur, du pape dans l'organisation de l'Église, au sommet de l'Église. C'est cela qui les retenait et les décidait.
Alors, vous avez expliqué que, à la différence d'autres ordres, c'est peut-être ça aussi qui... a généré des conflits, des désaccords, les jésuites vivaient dans le monde. Mais avaient-ils une règle particulière, justement, qui, en quelque sorte, guidait leur quotidien? Est-ce que les constitutions écrites par Ignace disent, ben voilà, tant de temps de prière, telle heure, telle cérémonie, tant de temps d'études, ou au contraire,
oui,
il y a une grande autonomie?
Il n'y a pas... il ne faut pas qu'on... Il ne faudrait pas croire que c'est une liberté totale. On vit dans le monde, mais en devant s'astreindre à un certain nombre de règles, mais hors du cadre monastique. Alors, les règles, ben, effectivement, c'est la prière. Ça, c'est incontournable. Et ce sont les rapports avec... avec le prochain, avec les prochains, qui sont cette particularité des jésuites, à la différence des autres ordres, qui n'ont pas ou peu de rapport avec le monde.
Nous avons un auditeur qui fait cette remarque. L'excellence des écoles jésuites en France n'est plus à faire. On pense à des préparations, des écoles préparatoires prestigieuses. Je crois qu'on leur doit la formation des élèves rangés en classe. comme c'est resté aujourd'hui, confirmez-vous. Des élèves rangés en classe.
En classe. Je vois pas très bien...
Ce que veut dire...
Oui.
Peut-être notre auditeur, s'il nous écoute,
oui.
pourra nous envoyer un message précisant que les... ce que c'est que
Est-ce que sont les classes préparatoires ouais, classes préparatoires, il y en a évidemment dans ces établissements jésuites, mais il y en a aussi dans les lycées laïcs. Par exemple, ces classes préparatoires qui sont un sujet d'excellence de l'enseignement français... on les trouve chez les uns et chez les autres.
Un auditeur, peut-être que l'auditeur nous enverra un message pour nous
oui,
préciser effectivement ce qu'il entend par ça. Un auditeur vous remercie et vous félicite de mettre en avant, de valoriser en effet la mission des jésuites qui sont allés partout dans le monde, en Inde, au Vietnam, au Japon. Nous allons naturellement aborder leur esprit et leur expansion militaire, et notre auditeur précise qu'il a étudié dans un lycée jésuite à Lisbonne, Lisbonne qui est l'un des, effectivement, des bastions,
oui, bien sûr.
Dès le début.
Oui, oui.
Parce que, justement, il y avait cette relation avec le roi du Portugal. Mmh. Et... Alors, justement, nous avons un auditeur, quand on parle du Portugal, qui nous dit que, à une époque, au Portugal, les jésuites ont vu leurs biens confisqués par le marquis de Pombal.
Ah oui, bien sûr.
Franc-maçon notoire.
Oui.
Un de mes ancêtres, écrit-il, était évêque à Macao, qui oui. nous a été offerte par la Chine au milieu du XVIIIe siècle.
Oui, alors Pombal est un personnage clé dans cette partie que nous évoquerons la prochaine fois.
Oui.
À savoir, parce que c'est le XVIIIe siècle, donc on n'aura pas le temps d'y arriver, mais c'est l'entreprise de démolition des jésuites. Et ça commence au Portugal. Et ça commence avec ce fameux marquis de Pombal.
Là, on est à quelle époque au 18e siècle
1750.
D'accord.
Et ça correspond aussi au tremblement de terre
ah oui, le
de,
fameux,
Lisbonne.
De Lisbonne.
Et
oui.
Pombal doit sa notoriété et sa puissance au rôle qu'il a joué dans le relèvement de Lisbonne. Et donc, il a acquis une position de puissance. Le roi lui a accordé sa confiance. Et Pombal était très hostile aux jésuites. Et il en a fait une question de, presque personnelle de détruire les jésuites au Portugal. Et si possible, au-delà du Portugal, c'est ce qui s'est passé.
Ils ont été chassés, expulsés ?
Alors, ils ont été chassés du Portugal. C'est le premier pays catholique dont ils ont été expulsés. C'est dans les années 50. Après vient la France, 1764, l'Espagne, le royaume des deux Siciles, Parme, par étapes. Et puis, à la fin des fins, lorsque l'ordre est dissous, eh bien, ce sont les pays autrichiens et l'Allemagne du Sud, la Bavière, dont ils sont expulsés.
À leur tour.
Oui. Alors, avec un point intéressant et curieux, c'est que, là nous franchissons les siècles, mais puisqu'on évoque la figure de Pombal, allons jusqu'au bout. Il y a deux pays totalement inattendus dont les jésuites n'ont pas été expulsés, deux pays européens, dont ils n'ont pas été expulsés. Et je disais inattendu. Le premier, c'est la Prusse de Frédéric II. Or, Frédéric II, c'est le roi philosophe, l'ami de Voltaire, qui, sans doute au fond de lui-même, en ce qui concerne le plan philosophique, ne pensait que pique-pendre des jésuites. Mais il avait compris que l'enseignement qu'ils donnaient dans leur collège était de premier ordre. Il ne fallait donc pas les expulser. Il fallait garder ces collèges. Si on voulait avoir de bons fonctionnaires prussiens, il fallait d'anciens élèves des jésuites. Ça, c'est le premier pays. Et le second est encore plus exotique, c'est la Russie. La Russie de Catherine II. Alors, là, la raison est double. La première, elle vaut aussi pour Frédéric II. Le pape n'a pas à me dicter ce que je dois faire. Il promulgue une bulle, c'est son problème, mais moi, je ne suis pas obligé de l'appliquer dans mon empire. Et la seconde raison, c'est la même que celle de Frédéric II, l'enseignement que donnent les jésuites est excellent, il n'y a donc aucune raison de les chasser. Je les garde.
Un autre ami auditeur vient de préciser en effet sa remarque.
Ah oui, d'accord.
Merci beaucoup à lui. En effet, que lorsque la formation des élèves rangés en classe, il précise le sens. Les élèves rangés par classe d'âge depuis la 11e, c'est-à-dire 11e, 10e, 9e, 8e, 6e, etc., nous le devrions, dit-il, aux jésuites. Voilà. C'est ce qu'il précise.
Je pense que c'est probable.
Et que c'est resté, effectivement, dans le temps. Oui. Un autre auditeur qui nous dit que les jésuites excellent dans l'éducation, parce que ça, finalement, vous l'avez confirmé, et notamment l'éducation des élites. Et je comprends moins la deuxième partie de la question. Ont-ils un rôle et une puissance réelle dans la formation bénédictine? Il y a eu un lien entre les deux.
Oui, je vois pas très bien, non plus.
Non, là c'est pareil. Donc, cher auditeur, si vous nous écoutez, n'hésitez pas
éclairer notre lanterne.
Exactement, à préciser votre message. Je vous propose d'aborder le rôle des jésuites. Vous l'avez un petit peu évoqué pour l'Allemagne et l'Autriche dans le combat dans le cadre de la contre-réforme, notamment du Concile de Trente.
Oui, alors leur rôle.
Fameux Concile de Trente. Est-ce qu'ils ont joué un rôle particulier dans ce concile, qui a duré très longtemps d'ailleurs?
Oui, plus de 20 ans. Si bien que certains de ceux qui participaient au début n'étaient plus là lorsque le concile s'est terminé. Mais ce concile, les jésuites y ont joué un rôle essentiel. Et c'est notamment le cas de Diego Lainez, qui sera le successeur de Saint-Ignace, comme général des jésuites, supérieur général des jésuites. Et les choses sont passées de la manière suivante. Le fameux Paul III, dont on nous a dit pique-pendre tout à l'heure, a demandé à Saint-Ignace, ce qui montre le degré de confiance qu'il avait en lui, de lui désigner deux théologiens qui seraient nommés théologiens pontificaux et qui participeraient, en étant en quelque sorte la voix du pape, à ce concile de Trente. Bon. Alors, il en nomme deux, et notamment ce Diego Lainez. Diego Lainez est un théologien de premier ordre, mais il a une autre particularité qui mérite d'être relevée. C'est un converso, donc un juif converti au catholicisme. Et en Espagne, à cette époque, les juifs convertis ne sont pas particulièrement bien vus. À la fin des fins, d'ailleurs, mais Lainez sera mort à ce moment-là, il ne sera plus possible à un juif converti d'entrer dans l'ordre. Ça n'avait pas été le cas donc pour Lainez, et Saint-Ignace, qui avait une vue beaucoup plus large que certains de ses contemporains savaient très bien que Lainez était un juif converti. Ça n'a pas empêché de le désigner pour être un théologien pontifical. Bon. Et ce théologien pontifical a joué un rôle majeur au Concile de Trente, notamment dans la affirmation de la doctrine centrale de la justification par la foi. dans la foi et les œuvres. Ce qui est le fondement de la doctrine catholique, la doctrine, donc la foi et les œuvres, ce qui veut dire le libre arbitre. Et ça, c'est un fondement et de la pensée catholique et de la pensée jésuite, qu'on va retrouver au siècle suivant dans la querelle qui va les opposer aux jansénistes. Les jansénistes qui ne connaissent que la grâce et qui, au fond, même s'ils n'en ont pas conscience, ou en tout cas, même s'ils ne le reconnaissent pas, sont assez proches du calvinisme. Bon, en tout cas, l'Aïnès joue un rôle essentiel à ce Concile de Trente. Concile de Trente qui est, est tout à fait fondamental pour l'affirmation et la diffusion de la doctrine catholique. Parce que, certes, il y a eu des modifications qui ont été apportées avec le Concile de Vatican II, mais Trente reste une pierre essentielle de la doctrine catholique encore aujourd'hui. Donc, le rôle de l'Aïnès est essentiel, et à travers l'Aïnès, des jésuites.
Alors, vous écrivez d'ailleurs que c'est aux jésuites, au Concile de Trente, que l'on doit la création dans chaque diocèse d'un séminaire pour assurer la formation des futurs prêtres.
Oui, c'est un point très important parce que c'est une question qui était devenue essentielle. Dans la plupart des pays catholiques, en ce début du XVIe siècle, on pourrait dire presque que les pays catholiques sont en jachère. Les séminaires, lorsqu'il y en a, ils sont presque vides. Beaucoup d'églises n'ont plus de servants. Je cite dans le livre le cas de Vienne, mais il y en a d'autres. Hein. Ça se limite pas à Vienne.
Eh bien, Monsieur Jean-Paul Blaise, je vous remercie sur ces explications, notamment sur l'importance de la création de séminaires dans chaque diocèse, qui est une conséquence des propositions des jésuites au Concile de Trente, que nous allons nous quitter. Vous allez revenir, bien sûr, pour poursuivre avec vous cette passionnante histoire.
Grand plaisir.
Histoire mondiale des jésuites, l'histoire des jésuites d'Ignace de Loyola au pape François, que vous publiez chez Talendier. Un grand merci à vous. Merci à Stéphane à la technique. Merci à Laurent au standard. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche.
Et aux contributions par les messages.
Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Merci à vous, Jean-Paul Blaise. À très bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 10 mai 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.